Wartet!
Groovy!
Bonjour, Françoise Tressard et la belle équipe en piste jusqu'à 13h58. Au menu de ce numéro des Papous, un inventaire des petites catastrophes suivi d'une expérience de tourisme minimal proposée par Ricardo Mosner pour faire rêver son amoureuse.
Il fallait que je synthétise, sinon il ne resterait plus de place pour les grandes aventures, les escalades des montagnes, la traversée des rivières, les nuits de pleine-lune au son des bandoneons, les combats avec des crocodiles géants et l'amour à la plage sous des papillons dorés et les mouettes de Tchekhov.
Et puis il a texté avec une feuille de route de Jacques Vallée pour Jean-Bernard Pouyervé Le Tellier, le sixième épisode de Madeleine, pourquoi tu déménages, et enfin le DLA avec les experts Beignet, Almassy, Fournier et Monsieur Pouy.
Il y a un roman noir qui parle de ça exactement, mais que je connais par cœur, donc il n'y a pas cette scène dedans. Le lézard lubrique de Mélancolikov, qui est un chef-d'œuvre. Pareil.
Mélancolikov, ça, c'est un nom d'auteur.
Ah oui, c'est magnifique. Joli dimanche, Papou, à tous. Une émission à retrouver en podcast sur franceculture.fr. Merci de votre écoute fidèle et bienvenue à ceux qui nous découvrent et qui peuvent aussi nous rejoindre sur Facebook. On se lance avec un inventaire collectif sur un sujet cher à Lucas Fournier, celui des petites catastrophes que l'on a déclenchées un jour par inadvertance, négligence, paresse, maladresse ou tout simplement parce qu'on était moins vigilant que d'ordinaire. Des maladresses où vous risquez bien de vous reconnaître. Partagez nos petites catastrophes sur Facebook et faites-nous part des vôtres. Pour l'heure, découvrez celle de Patrice Delbourg, Jacques Vallée, Jean-Bernard Pouy, Eva Almassy, Jacques Jouet et Lucas Fournier. Donc à vous l'honneur, Lucas.
C'est une grande table dressée pour un banquet dans un palace parisien. Les invités s'installent, il y a un patron du CAC 40, un président du Parlement européen, des hauts fonctionnaires, des VIP et moi. Ça, c'est la première erreur. On commence à s'asseoir et on m'a mis en bout de table. Et pourquoi comment je sens que ma rotule heurte ce que je crois être un pied de table. Et non, en fait, c'est un pied de tréteau. Mais je ne le sais pas. Un tréteau qui soutient le plateau sur lequel est posée la nappe et les couverts. Trop tard. Un tréteau pas très costaud et je vois impuissant se pencher la table de mon côté. Un verre glisse, puis une assiette, puis des couverts, puis beaucoup d'assiettes. Le rythme est paisible au début, puis tout s'accélère. On dirait le Titanic en train de se redresser avant de sombrer. Tout cela dure 2 ou 3 secondes, mais assez longues. Hein. Il n'y a aucun cri, mais au contraire un grand silence autour de moi. Ils se sont tous levés, je suis demeuré assis. Je ne peux pas dire non, ce n'est pas moi, je ne dis rien. Mon visage doit avoir la belle couleur du gevrey chambertin épandu sur la nappe blanche. Tout le petit personnel impassible du palace s'affaire avec ses serviettes et des balais. Je sais que ce n'est pas vrai, que c'est un cauchemar ou un film de Mel Brooks. Depuis, je regarde toujours où je mets les genoux.
Vous avez raison, Jacques Vallée.
Alors, c'est un souvenir de mes 20 ans. Je partageais avec un ami un appartement à l'étage dans une maison isolée à quelques kilomètres d'Avignon. Il soufflait depuis quelques jours un mistral glacial et nous n'étions pas chauffés. Il y avait même de la glace dans la cuisine. Dans la journée, quelqu'un avait prêté à mon ami un appareil de chauffage à thermixtine, un pétrole lampant très volatile et très inflammable. Le soir, nous étions en train de tirer des affiches, nous faisions du théâtre. Mon ami a alors l'idée saugrenue d'alimenter l'appareil dans sa chambre, un bidon de 5 litres, alors qu'il a oublié sous son lit un réchaud électrique.
Ah,
et l'effet est immédiat. Une volute de flammes envahit la chambre. On serait cru au cinéma devant l'incendie d'un puits de pétrole. C'était la panique. Nous étions tous les deux mariés. Tout le monde se réfugie sur le balcon. Moi, j'ai cherché à éteindre le feu. Ce que j'ai réussi à faire en traînant le bidon jusqu'à l'entrée avec une bassine de bain. Et dehors, j'ai été pris dans un retour de flammes à cause du vent. Bref, j'ai fait une visite chez les grands brûlés.
Oh là là, mais oui mon pauvre, ça se voit même pas.
Ben non, parce que j'avais beaucoup de pulls déjà, on n'était pas chauffé, mais j'avais les mains et les visages.
Oh, oui. Une aventure aussi terrifiante, Patrice Delbourg.
9 juillet 2006, finale France-Italie de la Coupe du Monde de football.
Ah.
Il était très jeune.
Soirée de gala. Ma télé implose 10 minutes avant le début de la rencontre.
Oh non, c'est affreux ça.
L'écran devient soudain tout bleu. Très mauvais signe. Une petite fumée s'échappe du tunnel. Signe que l'on peut signer. La soirée est fichue. Trois copains sont là, tétanisés, médusés, devant les assiettes de chips et les packs de bière. Ils recherchent déjà fiévreusement sur leur portable le bar ami qui pourrait nous faire une petite place dans le quartier, en se promettant qu'ils ne me feraient jamais plus confiance pour un grand rendez-vous de ballon rond.
Vous aviez une vieille télévision des années 60,
une Philips, oui, avec laquelle j'avais vu une rencontre en 58.
Jean-Bernard.
À propos de Thierry, chez moi, il y a une zapette, ce qu'on appelle la zapette, mais qui est anarchiste. Elle fait absolument ce qu'elle veut. Donc, elle est douée d'une vie propre, et elle vous force à regarder, de temps en temps, la totalité des chaînes de la télé, raison de 3 secondes par chaîne. De temps en temps, elle s'occupe que du son, de temps en temps de l'image, donc c'est vrai que les films underground à côté, c'est nul. Et puis les sous-titres, alors dans toutes les langues, ça arrive souvent, enfin bref.
Faut peut-être changer les piles, non?
Non, j'ai tout fait, hein. C'était pas vraiment quand même une sinécure.
Eva?
Je vais vous raconter une catastrophe évitée de justesse. C'était au moment de la sortie du Casino Royale, James Bond. Et alors, tout d'un coup, à 9h du soir, juste avant que le supermarché ferme, ben, on y va. Donc, on enlève la voiture de sa place de parking pour acheter le DVD. On revient, il n'y a plus de place. Par contre, la voiture qui a pris la nôtre est totalement écrabouillée sur un arbre qui est tombé. Il n'y avait ni orage, ni tempête, ni rien. Et ce Prunus que j'adorais, sinon il était magnifique, est tombé sur la voiture à notre emplacement. Mais vous voyez comme il est fort, 007.
Mais oui, mais
il
oui.
a sauvé notre voiture.
Jacques Jouet.
Je suis en retard au rendez-vous avec Chantal, qui a prévu de m'annoncer qu'elle me quittait pour aller avec Robert. Mais Robert, lui, est en avance à son rendez-vous avec Chantal, qui devait être débarrassée de moi et aller au Cinoche avec lui. Mmh. Robert, c'est embarrassant.
Jacques Vallée, un petit problème domestique, un petit ou un gros.
Oui. Un soir, avec ma compagne, nous dînions tranquillement, frugalement, paisiblement. Quand on sonne à la porte, intrigué, je vais ouvrir. Et un couple d'amis, disons des gens qui étaient importants pour nous, arrivent les bras chargés de fleurs. Je suis sidéré. Nous les avions en effet invités, mais nous étions persuadés que c'était le lendemain. Ils étaient gênés, pensant que c'était eux qui pouvaient s'être trompés, je ne crois pas. Alors que nous avions projeté de leur faire une grande réception, nous sommes retrouvés autour de la petite table à leur offrir du riz à l'eau et du jambon.
Bah mais ça laisse parfois des merveilleux souvenirs, oui. Ce genre de situation. Patrice Delbourg.
Je rentre chez moi. Ma fille est encore petite. Je tourne la clé, je pousse la porte, actionne l'interrupteur. Noir, noir. Il fait noir. Un schwarz d'ébène. Pas de lumière à mon logis. Ma fille commence à pleurer. Je m'effondre sur le canapé en proie à un violon malaise de désarroi. J'appelle à tâtons SOS dépannage. 30 minutes plus tard, un gars goguenard, sifflant le pont de la rivière Kouaï, s'encadre dans le champ branle, ouvre mon placard à balai et actionne quelque chose avec son bras gauche. La lumière revient comme par miracle. Votre disjoncteur est là, monsieur Delbourg. Mon quoi ? Votre disjoncteur, c'est un dispositif qui permet d'interrompre le courant électrique en cas d'incident. Ça évite les courts-circuits, le tintouin. Ah, je croyais que c'était réservé aux locaux d'entreprise, dis-je bêtement. Le professionnel me regarde comme un bonobo échappé du zoo de Vincennes. Ça fera 147 €, je vous prie, en liquide de préférence.
Eh oui, c'est vraiment le plus nul d'entre nous, je crois, Patrice Delbourg. Jacques Jouet.
Le train Lyon-Pardieu-Nîmes, il écrase une vache. On l'a entendu passer sous le wagon, c'est terriblement impressionnant. Ah. On annonce 3 heures de retard. Je ne serai pas à l'heure pour la feria.
Une grosse ou une toute petite catastrophe, Lucas Fournier ?
Une très courte. J'ai appelé Christine Florence au moment où j'étais seul avec Christine et que son amie Florence n'était pas là.
Oui.
Et les conséquences ont été définitives.
Patrice Delbourg.
Je n'ai jamais su planter un clou. Je veux accrocher une litho d'Henri Cueco au mur de ma chambre. On m'a dit que c'est du béton, un mur porteur. Ah bon ?
Le clou se plie, je prends une chignole, je tamponne, je tente de visser une cheville, tout se fendille brusquement. Un grand pan de paroisse dérobe, je passe le bras à travers la cloison, le voisin me regarde. Tiens, monsieur Delbourg, c'est gentil de répondre à mon invitation, mais je vous attendais par la porte. L'important c'est que vous soyez là, j'ai une bonne petite absinthe à votre attention dans le réfrigérateur.
Rendez-vous dimanche prochain pour d'autres petites catastrophes. Rodrigo Leao à Comédia de Deus.
Eh les filles, les gars, les papous, c'est dans votre tête. Sur France Culture, hein?
Oui!
Merci Patrice de le rappeler. Si vous ne faites pas partie de ceux qui voyagent à toutes les vacances, toujours plus loin, à la recherche du dépaysement, en laissant au passage une empreinte carbone colossale, vous appartenez peut-être à la catégorie des rêveurs, qui n'ont pas besoin de mettre entre leur quotidien et eux une grande distance pour se ressourcer, comme on dit, faire le plein d'énergie positive, parce qu'ils peuvent trouver l'ailleurs à deux pas de chez eux. Ricardo Mosner, notre peintre papou argentin, appartient au genre imaginatif et il déteste les voyages, sauf si c'est lui qui les invente à deux pas de chez lui. Alors il devient promoteur de lieux nouveaux, insolites, minimalistes, à nous faire partager, Ricardo.
Oui, alors c'est un tourisme minimal sur une planche de carton.
Ah.
Je vous raconte. J'avais rendez-vous avec elle, pas la planche de carton, elle.
Une femme.
Oui. Un rencard sérieux, prévu depuis longue date, organisé pour un départ vers des terres inconnues. Pas pour moi, pour elle. J'allais lui faire découvrir l'Argentine. Pas besoin de bagages, on achètera ce qu'il faut sur place et pour le reste, j'ai tout concocté, j'avais dit. Sous le charme de l'amour, parfois on dit n'importe quoi.
Ça, c'est bien vrai.
On se prend pour quelqu'un d'autre, puis il faut improviser.
Il a une grande amertume, le pauvre Ricardo, ça va bien en ce moment.
Oui, oui. Le moment est arrivé, elle aussi. J'étais là, à ma table. Comment t'expliquer que les voyages n'étaient pas ma tasse de thé? Que changer mes habitudes serait le pire de mes cauchemars et la fin de notre relation. Que j'étais déjà assez décalé comme ça pour subir en plus un décalage horaire. Bref, je n'ai pas osé cracher les morceaux. Que le tourisme était hors de mes moyens. Et j'ai démarré mon cirque sur une grande planche en carton, faite de l'assemblage de deux boîtes d'emballage de pizza marque Grandiosa. J'ai commencé à dessiner au pastel les points de départ. Pour l'aéroport, une lettre A. Et pour l'avion, une croix à l'horizontale. Il fallait que je synthétise, sinon il ne resterait plus de place pour les grandes aventures, les escalades de montagnes, la traversée des rivières, les nuits de pleine-lune au son des bandoneons, les combats avec des crocodiles géants et l'amour à la plage, sous des papillons dorés et les mouettes de Tchekhov. Là, les dessins commençaient à être plus précis. Mais je sentais qu'il ne passait pas. La ressemblance physique n'y était pas. Donc j'ai brouillé les pistes et je suis passé à une autre planche pour la suite du voyage. À un moment, j'ai ressenti un petit manque de consistance à notre balade. Alors pour donner du volume à notre fabuleux voyage, j'ai décidé de passer au volume au tridimensionnel, le luxe, l'exotisme total. Avec mon stock d'emballage de pizza Grandiosa, au moins 365 cartons de l'année 2015, j'ai démarré la construction de notre sublime rancho, le ranch, une hacienda de la Pampa Salvaje, de 4 mètres carrés, avec tout le confort du design contemporain. Cuisine, salle de bain, salle de sport, jacuzzi, bibliothèque, avec les livres les plus rares du monde, dont la méthode pour fabriquer une ville avec trois fois rien. Exemplaire unique et anonyme dont j'ai promis à ma bien-aimée de lui expliquer au retour de notre voyage. Plusieurs jours se sont écoulés autour de ma table et dans mes constructions, en nous arrêtant très brièvement de temps en temps pour chauffer une pizza. Elle, pas la pizza, mon amoureuse, avait l'air ravie.
On s'en doutait quand même, regarde.
Ben non, mais jamais.
C'est fini entre vous, non, je suppose.
Non, vous voyez, justement. Mon amoureuse avait l'air ravie. En tout cas, je n'ai pas entendu le contraire. D'ailleurs, on s'est donné rendez-vous le mois prochain afin qu'elle me raconte comment elle, herself, a vécu cette expérience et sans pression et conclusion. Je lui ai préparé des cartons vierges et des crayons. Ainsi, on pourra revivre notre virée depuis son point de vue. Car c'est vrai que jusque-là, il n'y a que moi qui ai parlé. J'espère qu'elle viendra. Déjà, je suis soulagé d'avoir échappé à l'achat des billets, à réserver des taxis, des hôtels, se faire dévaliser, arnaquer, dormir mal et manger des bizarreries qui vous empêchent de rêver et de vivre normalement comme tout le monde. Vous pouvez visiter ma table sous réservation et présentation de dossiers à partir du mois prochain. Bon voyage.
Ça a l'air pas mal. Enfin, c'est pas tonton, ah mais enfin, on peut essayer quand même.
Ah si, mais c'est un atelier bricolage absolument magnifique.
Voilà. Oui, mais qu'avec de la colle, je suppose, parce que oui. Le carton, on ne va pas visser, on ne va pas apprendre à,
carton,
à servir d'une
la
perceuse.
Carton, la colle, il y a tout. C'est
ah oui, quand même. Bon, vous auriez testé l'expérience pour nous, Patrick Beignet?
Écoutez, moi j'y suis allé, mais j'avais faim.
Ah, c'est embêtant.
Bah, le tourisme, quand on a faim, c'est, oui. ça crée des situations tendues.
Oui.
Et en fait, j'y allais surtout pour voir si les pizzas étaient bonnes.
Ah, d'accord.
Apparemment, Ricardo en fait une grosse consommation de pizza, une par jour en gros.
Oui.
Et ça explique certains traits de son caractère d'ailleurs, qui étaient demeurés un peu mystérieux pour moi jusqu'à présent. Toutefois, je n'ai pas compris s'il achète autant de pizza parce qu'il a besoin des cartons pour dessiner et faire des expériences, ou simplement parce qu'il a faim et qu'il veut manger les pizzas.
Oui.
Personnellement, je suis moyennement amateur de pizza. Et donc, mon opinion n'a pas beaucoup d'intérêt en la matière. Enfin, elle n'est pas fondée sur une...
Quand même. Ouais.
Même si je reconnais qu'une bonne pizza, c'est vraiment bon. Et que peut-être j'ai mal réchauffé la grandiosa que j'ai mangée, mais le résultat était vraiment pas probant. Enfin bon, ce sont des problèmes inévitables d'un voyage touristique. Une chose est sûre, c'est que si la pizza m'a pas vraiment enthousiasmé, sans vraiment me décevoir, vous voyez que j'ai un jugement nuancé, le carton, lui, est de premier choix. Et je comprends que Ricardo en fasse collection. Seulement, c'est dommage qu'il faille acheter une pizza pour avoir le carton. Mais après tout, on n'est pas obligé de la manger.
Ben voilà, on peut la donner à des gens qui ont faim.
Il a tout compris, parce que c'est vrai que j'achète cette pizza-là. Mais bon, une fois que j'ai acheté, quand je suis un peu avare, je les mange quand même.
Jacques Jouet, vous aussi, vous êtes allé tester l'expérience pour nous.
Mais je suis la copine de Ricardo, celle qu'il appelle elle.
Ah,
herself, c'est myself, en fait.
Oui.
Eh bien, je m'adresse à mon petit Ricardo.
Oh, vous sais. Avez l'air triste, alors, c'est pas bon signe, à mon
non,
avis.
Non, mais on connaît Ricardo. Donc,
oui, on a de la tendresse quand
pas,
même.
Voilà, on peut pas non plus tout lui reprocher trop violemment. Oh, mon petit Ricardo, tu sais, c'est la dernière fois que je fais un voyage sur une planche de carton. Je sais bien que tu ne pensais pas à mal en préparant ce voyage. Mais enfin, même si je sais qu'on ne saurait penser à tout, tu aurais pu tout de même anticiper certains obstacles. À peine grimpé sur la planche de carton, crac, il pleut. Et que se passe-t-il quand il pleut sur un carton, Ricardo? Tout s'avachit. Je sais que les vaches sont une spécialité argentine. Mais tu admettras qu'une bonne averse, ça ne facilite pas la traversée de l'Atlantique Sud. Hein? Que la pizza est alors constituée un réconfort, oui. Ça, je le reconnais. Mais pourquoi tant de chorizo, Ricardo? Et pourquoi ajouter des anchois par-dessus? Et pourquoi napper le tout avec du piment? J'ai la bouche en feu et j'ai soif. Je n'ai jamais eu aussi soif de toute ma vie. Qui n'a même pas prévu une gourde ou une canette de bière. La seule solution a été de tordre le carton humide pour récupérer quelques gouttes à boire. Alors, question voyage, je regrette, Ricardo. Mais la planche de carton, la prochaine fois, essaie de la prévoir en tissu. Léger. Et volant. Ça porte un très beau nom. Ça s'appelle un tapis. Une alfombra. Ça va, j'ai bien prononcé. Une alfombra.
Alfombra, parfait. Perfecto.
Ben, elle a des bonnes idées. Hein,
oui, un tapis volant, oui.
Oui, c'est ce que je voulais dire, oui.
Parce que vous ne nous aviez pas tout dit quand même sur l'expérience. Mais enfin, j'ai l'impression, d'après les témoignages de Patrick Beignet et Jacques Jouet, que la pizza est quand même au cœur de l'expérience touristique.
Je savais qu'il était inspiratrice. Grandiosa, ça peut être.
Il reste toujours une petite odeur sur le carton de pizza.
Oui,
donc
c'est
la pizza
bon,
est présente.
Vous dites le conseil, donc vous n'êtes pas herself, puisque le rôle a été pris par Jacques Jouet. Vous êtes qui, vous?
Je suis peut-être une autre herself.
Ah, déjà? Déjà remplacée?
Je suis la femme de ménage. Oh là là, je vois que monsieur l'artiste est encore parti en voyage hier. Mais regardez-moi un peu comment il a laissé la pièce. Là là, non, mais je te jure. Comment on peut être si cochon? Et des croûtes de pizza par-ci? On dirait presque des montagnes d'ailleurs. Et des noyaux d'olive? Ça, je parie que c'était pour faire les rochers. Et des lambeaux de mozzarella? C'est vrai, il s'en sert toujours pour la neige. Ou pour les glaciers, je ne sais plus. Et ce couteau-là qui traîne par terre pour la gueule du crocodile. Quel foutoir, mais quel foutoir! Et des bouts de carton par-ci. Allez, l'avion, viens donc atterrir dans la poubelle. Et ces grandes phrases pleines d'aventures, d'escalades, de traversées héroïques qu'il a dispersées un peu partout, sur le dossier des chaises, autour des lampes, sur son chevalet. Ah là là, je vous jure, et c'est qui doit toujours ranger et faire du propre? C'est Bibi. Et vous pensez qu'il m'emmènerait un jour en voyage, moi? Mais chut, il dort encore.
Ah oui, jusqu'à 15-16 heures, monsieur dort.
Sorte de voyage éthylique.
C'est une tranche de vie, là.
Bon, mais je sais pas si vous avez...
C'est une tranche de pizza.
Ouais, vous avez des petites difficultés avec les femmes, quand même, globalement. Hein.
Vous croyez?
C'est ce qu'on pourrait dire.
Qu'est-ce que
vous
dites? Ça vaut mieux d'avoir des difficultés avec les pizzas.
C'est vrai. Place à la textée avec le texteur Jacques Ballet et ses élèves Papou Joueur, Hervé Letellier et Jean-Bernard Pouy. Jacques Ballet va leur dicter un texte de son choix, mais ce sera bien plus difficile qu'à l'école puisqu'il ne sera pas question d'orthographe, mais de se laisser guider vers certaines idées ou mots par la feuille de route de Jacques qui dictera avec d'autres mots que ceux du texte. Et oui, c'est ça la grande difficulté du jeu. Trouver des images, des formes verbales qui entraîneront Jean-Bernard Pouy et Hervé Letellier vers l'écriture, vers l'inspiration. Si la textée réussit, leurs écrits auront des points communs entre eux et avec le texte original. Alors c'est parti Jacques Vallée, votre feuille de route. Et d'abord, est-ce qu'il y a un petit chapeau pour...
Oui, en titre, vous désignez une personne le plus simplement possible. Voilà. Et comme chapeau, vous allez donner une série d'ordres en insistant pour que l'on intervienne à propos de cette personne. Et à chaque fois, vous en dites la raison. Donc ces deux petits vers très courts, c'est une répétition, une série d'ordres que l'on donne à la personne qu'on désigne dans le titre.
J'ai pas du tout compris.
Oui. Si, au contraire, c'est très clair, là, pour une fois.
Vous pourriez expliquer à votre camarade, vous ne travaillez pas là-dessus.
Je vais te répéter, vous allez donner une série d'ordres.
Oui.
Pour que l'on intervienne à propos de la personne que vous nommez dans le titre.
D'accord, très bien, ok.
Et à chaque fois, vous en dites la raison, pourquoi vous donnez cet ordre, ouais. Voilà. Donc, il y a 8 injonctions.
Oui.
Et ça fera des groupes de 2 vers, quoi.
16 vers à écrire, 16 vers très courts.
Oui, mais c'était très court, c'est répétitif.
Ah oui,
d'accord. 16 vers, oui.
Alors,
tournée générale.
Première injonction. Vous réclamez qu'on vous prête assistance en signalant le côté pesant de cette personne.
Oui, d'accord, ça c'est assez clair.
Deux, vous réclamez une certaine outrance prétextant une infirmité de la personne. Trois, vous réclamez un minimum de connaissances vu que la personne n'est pas très fut-fut.
Oui.
4. Vous réclamez de façon inattendue une partance en signalant que la personne est hésitante. 5. Vous réclamez qu'on manifeste une attirance pour la personne en soulignant l'ouvrage du temps. Vous réclamez un geste de croyance en évoquant la toute-puissance de la personne. 7. Vous interdisez, votre ordre est un peu plus direct, tout éclairage vu le relâchement progressif de la personne. Enfin, reprenant la forme de vos exigences, vous réclamez le silence, car exit la personne.
Est morte. Enfin, partie.
Exit.
Et à chaque fois, ça rime.
Vous mettez des rimes où vous voulez.
Ah, ben ça, c'est très libre.
Ça, j'aime bien ça.
Oui.
Des rimes où
c'est moderne.
Oui, ça, j'aime bien.
Des questions, Jean-Bernard Pouy.
C'est des vers très courts.
Partance, qu'est-ce qu'il entend par partance?
Ah.
Un départ.
Ah oui.
Je voulais. Parce que c'était très difficile de trouver tous les mots, toutes les définitions en nonce. Alors, j'ai trouvé une partance pour signifier.
Oui, parce qu'il a essayé de nous faire un poème aussi dans sa feuille de route. Vous l'aviez noté, Jean-Bernard Pouy. J'ai dit, il a essayé.
À chaque fois qu'il ouvre la bouche, n'importe comment, c'est un peu de poésie qui en sort. À chaque fois.
Oui.
Toujours. Même quand il prend le bus ou.
Ah oui, oui. Allez, amusez-vous bien.
Jedes kleine Mädel, die Liebe gleich führt. Und der lange Jochen ist im Sofa krumm, wenn es eine Kati im Wachsentag bietet. Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt.
On se retrouve, Jean-Bernard Pouy, Hervé Le Tellier, avec votre feuille noircie par vos réactions aux injonctions de Jacques Vallée. C'était bien, c'était bon à faire.
Oh oui.
Dites n'importe quoi. Alors on va réécouter vos injonctions, Jacques Vallée.
Déjà le titre, désigner une personne le plus simplement possible.
Jean-Bernard.
Le bourreau.
Ah oui, évidemment, Hervé.
Raoul.
Raoul, c'est déjà plus avenant, je dirais.
Vous savez que le bourreau s'appelle Raoul par ailleurs.
Peut-être, enfin... peut-être. Il y a un des deux titres qui se rapproche du vôtre.
Peut-être celui de Jean-Bernard, peut-être.
Ah non, d'accord. Donc il y a cette noirceur aussi.
Pas obligatoirement.
Ah, on peut être bourreau sans être dur.
Oui, parce que ça peut ne pas être un prénom et ça peut être un nom général.
Et le bourreau des cœurs.
Alors,
donc, il y a une série d'ordres et chaque fois vous dites la raison. Vous réclamez qu'on vous prête assistance en signalant le côté pesant de cette personne.
Jean-Bernard.
Mais aidez-moi, vous tous, les gueux. Dites-lui qu'il est fort comme un chêne.
Le bourreau.
Oui.
Ah oui. Ah. Hervé.
Aidez-moi à le porter, vu qu'il est lourd, Raoul.
Ah, Raoul est mort, mon ami.
Ah bah non, pas forcément, pas encore.
C'est Raoul où t'as mis le corps, mais c'est lui, non.
Non, pas encore, il n'est pas mort.
Ça vous convient, Jacques?
Oui.
Parfait.
Parfait, bon.
Vous réclamez une certaine outrance, prétextant une infirmité de la personne.
Jean-Bernard.
Dites-lui qu'il est beau comme un astre rouge, et même s'il est bancal.
Le bourreau.
Oui.
Mais celui qui s'adresse à lui, c'est le condamné, alors? Pas forcément.
Mystère.
Mmh. Hervé Le Tellier.
Aidez-moi à le soulever, vu qu'il est gros, Raoul.
C'est une infirmité d'être gros.
Ça peut être compliqué dans la vie.
Si on doit vous porter, c'est ça.
Oui, bien sûr.
Oui. Ouais. Jacques Vallée.
Vous réclamez un minimum de connaissances, vu que la personne n'est pas très fut-fut.
Alors, donc, le bourreau ne serait pas très malin, Jean-Bernard Pouy.
Dites-lui que vous l'aimez jusqu'au sang, car le pauvre, il ne le sait pas.
Elle
c'est
est
pas
étrange,
la peine de me regarder comme ça.
Non, je me demande comment vous arrivez à avoir des idées pareilles.
Ouais. Mais je souffre beaucoup pendant la semaine.
C'est ça.
Ouais.
Hervé.
Le laissez pas dormir, il a tant bu, Raoul. Alors la connaissance, c'est parce qu'il a perdu connaissance.
Ah,
ah oui.
Ouais. Ça, c'est loin.
Ah oui.
Vous réclamez de façon inattendue une partance. Un départ, si vous voulez. En signalant que la personne est hésitante.
Alors, le bourreau ne veut pas vous tuer ?
Et s'il ne veut plus trancher de coups, qu'il aille décoller ailleurs.
Décoller, c'est un joli mot.
Oui.
Dites-lui de ne pas bouger, il veut partir, Raoul.
Bah oui, il est jamais content, Raoul.
Ah non,
oui.
Il est sur le bord du trottoir.
Petit tube,
il veut bouger.
Vous réclamez qu'on manifeste une attirance pour la personne en soulignant l'ouvrage du temps.
Alors, Jean-Bernard Pouy.
Mais criez-lui qu'il est le dernier de vos pères à savoir couper d'un seul coup.
C'est épouvantable.
C'est terrible, son truc.
Oui.
Je suis comme ça en ce moment.
Non, mais il est revenu avec sa feuille de papier. Il est allé écrire dans le couloir, là. Ouais. Et il avait l'air content de lui. Ouais, il m'a dit, j'ai eu une bonne idée. Et voilà. Hervé.
Dites-lui qu'elle va revenir, même s'il est vieux, Raoul.
Ben oui, ben, je ne suis pas sûre. Il se rapproche.
Ah, il se rapproche d'une façon tellement évidente.
Ah oui.
Vous réclamez un geste de croyance en évoquant la toute-puissance de la personne.
Jean-Bernard.
Apportez-lui sa hache sur un drap blanc. Lui seul, comme Arthur, peut la soulever.
Ah oui,
ça c'est beau.
C'est assez beau, hein, Jacques, oui.
Non, mais Hervé. Ça me touche.
Ah oui.
Docteur, faites un miracle. Peut pas crever, Raoul.
Non, ce serait trop triste.
Bah oui.
Mais elle va arriver à la fin.
On ne sait pas, c'est un suspense total.
Terrible.
Vous interdisez tout éclairage, vu le relâchement progressif de la personne.
Ah oui.
Éteignez toutes les torches indiscrètes, car il est lui-même la nuit.
Oh, c'est magnifique. Et il est assez proche.
Monsieur Le Tellier.
Et laissez-le dans le noir, qu'il se repose, Raoul.
Il en a besoin. Ouais. Il n'est pas frais, Raoul.
Pas frais, mais...
Enfin, vous réclamez le silence, car exit la personne.
Alors ?
Pas un bruit, pas un mot, pas un cri, qu'on entende ma tête tomber.
Maintenant, taisez-vous tous, car il est mort, Raoul.
Ah, quand même !
Ah oui.
Ça, c'est très...
très proche. Oui. On les réécoute, leurs textes.
Oh là, oui, hein. C'est surtout le bourreau, je voudrais savoir.
Ah oui, dans la continuité, comment ça se passe, Jean-Bernard?
Si
oui.
On peut en réchapper.
Le bourreau. Mais aidez-moi, vous tous, les gueux. Dites-lui qu'il est fort comme un chêne. Dites-lui qu'il est beau comme un astre rouge. Et même s'il est bancal, dites-lui que vous l'aimez jusqu'au sang. Car le pauvre, il ne le sait pas. Et s'il ne veut plus trancher de coups, qu'il aille décoller ailleurs. Mais criez-lui qu'il est le dernier de vos pères, à savoir couper d'un seul coup. Apportez-lui sa hache sur un drap blanc, lui seul, comme Arthur, peut la soulever. Éteignez toutes les torches indiscrètes, car il est lui-même la nuit. Pas un bruit, pas un mot, pas un cri, qu'on entende ma tête tomber.
Ça gagne à être lu dans la continuité, ah oui. Ça. Il est très beau, bon, votre texte.
Ah oui. Hein. À côté Villon.
Oui, exactement.
Hommage à Samson. Ouais.
Alors bon, avec Hervé Le Tellier, on est en compagnie de Raoul.
Ah oui. Aidez-moi à le porter, vu qu'il est lourd, Raoul. Aidez-moi à le soulever, vu qu'il est gros, Raoul. Ne laissez pas dormir, il a tant bu, Raoul. Dites-lui de ne pas bouger, il veut partir, Raoul. Dites-lui qu'elle va revenir, même s'il est vieux, Raoul. Docteur, faites un miracle, il ne peut pas crever, Raoul. Et laissez-le dans le noir qu'il se repose, Raoul. Maintenant, taisez-vous tous, vu qu'il est mort, Raoul.
C'est assez joli aussi.
On dirait une chanson de Bobby Lapointe.
Exactement, oui.
Il a Bobo Léon un peu.
Ce soir au bar, Igor Agar est noir. Non, mais ça a un côté aussi. Ouais. Hein.
Moi, j'espérais que ça ferait penser à Jeff, mais bon, c'est raté.
Ah non, on n'y a pas pensé du tout. Non, Jeff, t'es pas tout seul.
Ce qui a la musique est très proche du poème. La musique d'Hervé.
Où est-ce que vous avez pioché ce texte, cet original dont vous avez tiré une feuille de route, Jacques Vallée?
Ça s'appelle Monsieur.
Monsieur, ah.
Je vous dis de m'aider, monsieur est lourd. Je vous dis de crier, monsieur est sourd. Je vous dis d'expliquer, monsieur est bête. Je vous dis d'embarquer, monsieur regrette. Je vous dis de l'aimer, monsieur est vieux. Je vous dis de prier, monsieur est Dieu. Éteignez la lumière, monsieur s'endort. Je vous dis de vous taire, monsieur est mort.
Ah, c'est très proche.
Quand même.
Très proche de Raoul.
Très proche de Raoul.
Ah oui, c'est de qui alors?
On pourrait penser que c'est d'un poète belge qui s'appelle Norge.
Ah oui, Norge, bien sûr.
Grand poète.
Oui, bien sûr.
Et c'est tiré de Famine.
Contemporain de Neuwis.
Absolument, de Paul Neuwis. Norge qui avait trouvé son nom en regardant un timbre poste de la Norvège. Il y avait marqué Norge. Parce que son vrai nom, c'était Mougin.
Mougin.
Et il s'appelait
Georges Mougin.
Et il s'appelait Norge, comme ça.
D'accord.
C'est bien d'évoquer Norge.
Ah oui, mais
c'est un contemporain de Marcel Marienne aussi, non?
Oui, c'est ça.
Et c'est Jeanne Moreau qui a fait un disque très très joli avec les poèmes de Norge, notamment Le nombril, je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde.
Oui. Et c'est pour ça que j'ai pensé de l'amener Norge, il faisait très papou.
Il est très papou, Norge. Très, très bien. Bravo. Alors, Jean-Bernard Pouille a écrit un très joli texte, un peu inquiétant.
Très beau.
Mais assez loin, alors que l'histoire de Raoul d'Hervé Le Tellier est très proche de celle de Monsieur.
Oui.
Quand j'aurais dit Monsieur, vu qu'il est lourd, Monsieur, ça ressemblait beaucoup.
Ah, encore plus.
Il ne faut jamais donner un prénom à qui que ce soit.
Je suis le nombril du monde. Tu es le nombril du monde. Le nombril, la lune aussi est le nombril du monde. La lune aussi est le nombril du monde. Je t'ignore, tu m'ignores. La lune aussi nous ignore. C'est égal. C'est égal, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du monde. Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde. Le nombril, la lune aussi est le nombril du monde. La lune aussi est le nombril du monde.
Le nombril, un poème de Norge chanté par Jeanne Moreau. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, le retour de Madeleine. Et le DLA proposé par Jacques Jouet pour les experts Patrick Beignet, Val Massy, Jean-Bernard Pouy et Lucas Fournier. Madeleine, pourquoi tu déménages ? Le feuilleton écrit pour les papous par Jacques Jouet, l'histoire de Madeleine et de son mari Charles, ou Charles, quand ça l'arrange à l'anglaise, en clin d'œil à Baudelaire. Madeleine ne tient pas en place, se lasse vite de ses différents emménagements. Alors elle repart, entraînant Charles dans ses bagages qui, s'il traîne un peu des pieds pour repartir, a tout fait de s'acclimater là où il est. Mais en fait, il serait très heureux sédentaire, Charles. Leur parcours, parti de Paris pour aller à Issoudun, puis d'Issoudun à Clermont-Ferrand, de Clermont-Ferrand aux Miellettes, des Miellettes à Tokyo, de Tokyo, retour en France à Charleville, où nous les avons laissés dimanche dernier. Jacques Jouet, le sixième épisode.
Madeleine, mais pourquoi tu déménages et pour aller où ? T'es pas bien là où tu es ? Non. Madeleine, qui avait vu le diable à Charleville, une fois n'est pas coutume, Madeleine est ébranlée. Madeleine est prostrée. Si nous faisions, Madeleine, dit Charles, un résumé des épisodes précédents, ce qui s'impose puisque nous sommes dans un feuilleton. Nous avons habité la capitale, nous avons habité Issoudun, Clermont-Ferrand, les Miellettes, nous avons habité Tokyo et Charleville. C'est bien. En tant qu'adepte du grand déménagement, nous avons roulé notre bosse. Nous avons, comme on dit, des heures de vol de haute volée. Il nous semble que nous serions toujours bien là où nous ne sommes pas. C'est méritoire. Nous ne sommes pas de ceux qui se contentent de ce qu'ils ont. Nous avons des ambitions. Nous ne serons jamais de ceux qui se satisfont d'un acquis. Nous avons l'avenir devant nous, la surprise dans le pas d'un cheval. L'ennui n'est pas pour nous. Charleville, cela dit, et qui n'est pas ma ville, je tiens à le préciser, comme à dégager ma responsabilité. Charleville, t'as traumatisé Madeleine. J'espère que le mot est trop fort, mais nous vaincrons. Je crois qu'il est de mon devoir aujourd'hui, Madeleine, d'anticiper ton désir de changement de lieu de résidence, surtout au moment où tu sembles dépourvu de la plus élémentaire énergie qui nous ferait une fois de plus déménager. Non, tais-toi, écoute-moi jusqu'au bout, Rimbaud t'a fait peur, on pouvait s'y attendre, je le redoutais, mais il faut revenir à Baudelaire. Luxe, calme et volupté, Madeleine, voici ce qu'il te faut, et j'ai ce qu'il te faut, partons, tout est prêt. Tu es merveilleux, Charles, oui.
Luxe, calme et volupté. Il ne me faut rien de plus, il ne me faut rien de moins. Du soleil pour ma convalescence, tes caresses, un punch glacé dans un grand verre, un transat. Je veux me débarrasser de tous ces vêtements nordiques. Oui, Madeleine, nous partons pour la côte. La côte d'Adam, la côte de Jupiter, la cuisse de Charles, je ne sais plus très bien. Mais tu vas voir, oui, volupté, calme, luxe, cavalerie, en avant. Madeleine et Charles sont en route pour la côte d'Azur. Ils arrivent à hier, le jour même. Porquerolles droit devant, Porquerolles à côté, navette pour l'île du Levant. Ce soir, nous allons nous coucher au Levant, dit Charles, paradoxalement inspiré. Enfin, dit Madeleine. Mais tu es bien sûr qu'il n'y a aucun poète mauvais garçon dans cette île. Tu as bien compris à quoi j'aspire, Charles. Au calme, au luxe et à la volupté, mon amour, sois sans crainte. Ma chère amie d'amour, il n'y a pas l'ombre d'un poète au Levant. Il n'y a que des inconscients luxurieux et tranquilles. Ouf, dit Madeleine. Mais alors nous allons être heureux. mais évidemment, dit Charles, heureux comme Dieu en France. Regarde, nous jetons nos vêtements par-dessus les moulins, nos par-dessus, par-dessus, nos dessous. C'est la nature, Madeleine, le naturisme absolu. La nature, c'est nous, le ciel immaculé. Je suis hanté, 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 hanté. L'azur, je suis hanté, la côte, la côte, la côte d'azur. Exposons-nous plein sud. Tu es merveilleux, Charles. Je comprends pourquoi tes amis anglais ne jurent que par la côte d'Azur, c'est évident. Comment avons-nous pu l'ignorer si longtemps? Youhou! Et ils sont là, Charles et Madeleine, Madeleine et Charles, parce que c'était lui, parce que c'était elle. Ils prennent possession de leur location, ils mettent la clim, ils déroulent la moustiquaire avant de sortir jusqu'à la mer. Ils se dénudent au soleil, ils se caressent, ils sont chauffés par le soleil, ils font l'amour intensément et mollement à la fois. Oh là là! Il fait chaud, il fait bon chaud, ça tape. Pouh, je vais aller sous les tamaris, Charles. Il ne faut pas que j'abuse après la saison en enfer que tu m'as fait vivre à Charleville, Charles. Va, Madeleine, va. Va, dit Charles, qui reluque un peu les autres baigneuses qui se promènent dans le plus simple appareil. Et puis Charles, sans méfiance, Charles détendu, Charles confiant, s'endort sous un parasol, mais qui n'est pas un parasol intelligent. Non, mais un parasol pervers qui ne suit pas le mouvement du soleil. Au réveil, Charles se sent quelque peu rougeoyant. Il voit venir vers lui Madeleine rayonnante et voluptueuse. Charles, elle s'étire de tout son corps entièrement nu comme si elle était un capteur solaire embauché pour la transition énergétique. Charles ! Charles répond au quart de tour, mais... Aïe, aïe, ouille, Madeleine... Ah, non, non, écarte-toi, Madeleine. Oui, c'est ça, je crois bien, c'est affreux... Je crois bien que j'ai pris un coup de soleil, Madeleine. Un coup de soleil, mais où ça? Sur les épaules? Non, Madeleine. Les cuisses? Non, Madeleine. Oh. Où? Ah. Où? Mais il faut tout arracher. Non, ne m'arrache rien. Un coup de soleil sur le gland, Madeleine. Sur quoi? Le gland. Mais c'est affreux. Oui, c'est le mot. Et tu es sûr que... Tu veux dire que la chose n'est plus possible? Provisoirement, non, ça, je peux te l'assurer. Aïe! Mais que faire, Charles? Il faut partir, Madeleine. Déjà? Ah oui. Déménager? Oui. Où? Où tu voudras? Mais non, pas où je voudrais. Que veux-tu dire? Aïe! Mais Charles, il y a urgence, c'est tout rouge, c'est horrible, il faut retourner à Paris tout de suite. À Paris? Mais oui. Pourquoi Paris? Mais parce qu'à Paris... Il y a l'hôpital des glands brûlés, Charles.
Il a osé. C'est l'heure du DLA pour les papous dans la tête de France Culture. Bien concentrés, nos quatre experts du jour, Eva Almassy, Lucas Fournier, Patrick Beignet et Jean-Bernard Pouy. Et ils vont écouter un bout de littérature choisi dans un livre de sa bibliothèque. par Jacques Jouet, c'est un festival Jacques Jouet aujourd'hui. Il espère bien les piéger, vous piéger tous chez vous. Nous savons que c'est un jeu que vous adorez. Et piéger, eh bien, c'est le petit bonheur de celui qui soumet un texte à l'aveugle à ses camarades de jeu, avides de les entendre en disséquer le style pour déterminer son époque d'écriture, sa langue d'écriture, œuvre de jeunesse peut-être, bon gros pavé ou courte nouvelle, à quel genre littéraire le rattacher ce bout de littérature, pour finalement avancer des noms d'auteurs possibles. En seconde chance, de toute façon, Jacques Jouet a prévu de leur donner le choix entre trois. On vous écoute, Jacques.
Il regarda autour de lui. Les autres firent le cercle. Il ne restait plus qu'à se battre. J'avançai, j'esquivai un coup de dent à la gorge. Déjà, je lui avais donné un coup de patte qui le renversa le ventre en l'air et je fus sur lui. C'était une mauvaise manœuvre, comme si je ne l'avais pas su. Comme si je n'en avais pas vu mourir des dinosaures à force de griffures et de morsures sur la poitrine et le ventre, alors qu'ils pensaient avoir immobilisé l'ennemi. Mais je savais encore me servir de ma queue pour me tenir ferme. Je ne voulais pas me laisser renverser à mon tour. Je peinais, je sentais que j'allais céder. Ce fut alors qu'un des spectateurs cria « Vas-y, dinosaure !» Apprendre qu'il m'avait démasqué et retourner l'autre d'un coup, ce fut tout un. Perdu pour perdu, autant leur faire retrouver leur peur ancienne, et je frappai Zan une fois, deux, trois. Ils nous séparèrent. Zan, on te l'avait dit, la brute a des muscles. Il ne faut pas plaisanter avec la brute.
C'est étrange, c'est assez rigolo d'ailleurs.
Étrange est un mot faible.
Impression première, Jean-Bernard Pouy. Qui sont ces gens? Est-ce qu'il y a vraiment un dinosaure? Voilà.
Mais la première partie du texte pourrait faire croire que cet auteur fait parler un chien ou autre chose. Bon. Oui. Et la deuxième partie, non. Donc, c'est des gens qui se prennent pour des chiens, parce que c'est un combat de chiens. Ils se prennent pas pour des coqs, déjà, c'est déjà ça.
Oui.
Mais enfin, pour des chiens. Et puis, il y a un côté interdit, c'est ça que j'aime bien. Un peu comme les combats interdits, ce qu'on peut trouver dans Fight Club ou choses comme ça. Et puis, les surnoms font assez roman américain. C'est marrant, dinosaure, la brute, c'est toujours des qualificatifs.
Et le nom, Zan?
Zan, oui.
Ça bon. Fait quoi, Zan?
Oui, mais enfin, vu la teneur du texte, j'aurais pu l'appeler n'importe comment, c'est pas grave. Perdu pour perdu, comme dit. Mais c'est intéressant, c'est une écriture très droite, très assez sèche, et ça fait du bien par rapport à certains textes.
D'accord.
Je pense que c'est un écrivain de roman, peut-être de roman noir, peut-être.
D'accord. Patrick Beignet, un petit point de jonction avec Jean-Bernard Pouy ou pas
oui,
du tout
oui. Si, je suis effectivement du même avis sur l'écriture droite et sèche, pour reprendre tes qualificatifs. Très bien choisi.
Ah, t'as vu.
Je suis un peu désarmé par la rapidité du texte. Pour moi, ça va trop vite. C'est-à-dire que, bon, c'est pas un roman psychologique, visiblement, pas du moins cet épisode, mais quand même, on arrive trop rapidement au bout du combat, au bout de la scène de l'épisode, et ça gâche un peu mon plaisir.
C'est-à-dire que, j'aurais voulu du sang et du tripes.
J'aurais voulu du sang, j'aurais voulu qu'on me laisse le temps de comprendre. Quant à Zan, sauf erreur de ma part, ça veut dire dent en allemand. Hein, et donc, ça commence par le coup de dent à la gorge.
Je crois, oui. D'accord.
Bah, je dis ça en passant, mais...
Oui, oui. Non, mais c'est bien de le dire. Oui.
Et bon, il y a un côté très théâtral. Alors, c'est une forme de, ou de jeu du cirque ou de représentation de quelque chose de ce genre-là. Voilà, je ne suis pas du tout sensible au côté roman noir dont parle le JB, mais je connais moins bien que lui, le roman noir.
Lucas Fournier, le fait qu'effectivement l'action soit précipitée, est-ce que ça nous conduit plus vers une courte nouvelle que vers un roman?
Ouh, comme vous y allez. Effectivement, on a l'impression d'être dans Jurassic Park, oui. Avec un combat donc du héros qui appartient à la tribu des dinosaures, et qui s'appelle La Brute, d'après ce que j'ai compris, et qui frappe et qui terrasse le dénommé Zan, qui est apparemment une bête ou un animal. Voilà. Donc tout est simple dans ce texte. Il y a quand même une phrase un peu étrange. « Apprendre qu'il m'avait démasqué et retourné l'autre d'un coup, virgule, ce fut tout un. » Alors, ce tout-im ou ce tout-un, autant le texte était sec et limpide, ce fut tout-un est étrange. Enfin, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire.
Non, oui, mais je pense que ça lui donne une énergie.
Ce fut tout-un. Vous avez déjà dit dans votre vie, ce fut tout-un.
Oh, moi, ça m'arrive souvent.
On dit jeune fille ni une ni deux, oui, mais alors ce fut tout un, je découvre ça.
Les hommes politiques le disent souvent.
Ah oui.
Coincés disent, ah ben non, je suis tout un, je suis ça. Bon.
Non, je suis boutin, mais pas je suis tout un. Non, voilà, ce fut si. Tout un, oui. C'est une énigme, ça.
Alors, pour moi, en tout cas, c'est plutôt cinématographique que théâtral, oui. Je vois très mal, enfin, mais pas Jurassic Park. Pour moi, ce sont plus des catcheurs, et c'est pour ça qu'il est démasqué, parce qu'il endosse un personnage que peut-être son costume ne dénote pas, et c'est pour ça que c'est... par des connaisseurs, c'est-à-dire par ceux qui savent qu'il a lutté à la manière d'un dinosaure, qui se sont démasqués quand les autres lui crient « Mais vas-y, dinosaure !» Parce qu'autrement, ce serait un texte de pure imagination où se met dans la peau d'un animal. Mais je pense que l'auteur reste dans la peau d'un humain. D'accord. Alors, cela dit, je n'aime pas du tout ce texte. Il m'est totalement étranger. Ni la version cinématographique, ni la version textuelle ne pourraient me séduire.
Vous ne liriez pas 300 pages ?
Non.
Non, pas du tout. Jean-Bernard, on peut progresser sur l'écriture.
On peut toujours progresser.
Est-ce que c'est une traduction ? Est-ce que c'est du français ?
Je ne sais pas. Mais je voudrais dire quand même quelque chose qui me perturbe. Oui. C'est la suite de la phrase qu'a citée Lucas. Perdu pour perdu, autant leur faire retrouver leur peur ancienne.
Oui, c'est assez
ça, c'est
joli,
très étrange. Et ça me fait penser plutôt à des romans de science-fiction. Des romans de science-fiction assez lointains. Je parle pas de Cyrano de Bergerac, mais plutôt après la guerre. Je pense à un roman comme « Demain les chiens » ou des choses comme ça, où on peut trouver ce genre de remarque où quelqu'un est dans une autre société et doit peut-être leur dire ce qu'ils étaient avant ou ce qu'ils ont perdu. Il y a ce côté-là, le monde perdu. Et alors, le monde perdu et dans lequel on parle des dinosaures, c'est pas...
Bah, c'est Jurassic Park, c'est le titre du
film. Oui, mais c'est pas... c'est pas idiot. Simplement, puisque vous nous demandez de trouver des textes très très connus... Si
non,
je dis,
pas très très connu, d'auteur très connu.
D'auteur très connu. Si je dis différent. Clifford Simak...
oui, alors là, moi, je connais
Autant
pas.
Autant de mal et chien, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais. J'ai vu Patrick Beignet acquiescer quand vous avez parlé de science-fiction.
Oui, parce qu'effectivement, autant je ne sentais pas du roman noir, autant, effectivement, ça rappelle la science-fiction et des années 50, de l'immédiat d'après-guerre. Comme le côté catch aussi, d'ailleurs, qui relève.
Mais catch, moi, j'y crois pas, parce que, quand même, même si c'est un catcheur qui se prend pour un chien, qu'il puisse dire qu'il se sert encore de sa
queue. Pourquoi un chien?
Je comprends pas le chien.
Vous dites
pourquoi
un chien?
Dos, le ventre à l'air.
Il se sert de sa queue pour se tenir
le
ferme.
Le dent à la gorge, ça fait très canin. Après, le ventre à l'air, le coup de patte, il y a quelque chose de très canin.
Non, mais moi, je pense que même la peur ancienne, c'est pas du tout une peur ancestrale. Ça pourrait être, par exemple, un catcheur ou un lutteur qui est recherché par la police. Et autrefois, c'était le légendaire dinosaure. Et alors, il lutte à nouveau. Il a peut-être fait même de la chirurgie esthétique pour se changer. N'importe quoi, il sera méconnaissable. Mais au moment de lutter, il ne peut pas s'empêcher de lutter à sa façon légendaire.
Oui, donc on le reconnaît.
Et on le reconnaît. Et peut-être ça va être fatal pour lui. Et la peur ancienne, c'est juste sa renommée en tant que dinosaure.
Il y a un roman noir qui parle de ça exactement, mais que je connais par cœur, donc il n'y a pas cette scène dedans. Le lézard lubrique de Mélancolikov, qui est un chef-d'œuvre. Pareil.
Que chef-d'œuvre.
Un dinosaure, sauf qu'il ne se prend pas pour un chien, il se prend pour une...
Boris Groschowski aussi, tant qu'on y est, mais bon.
Il ne se prend pas pour un animal, il se prend pour une caravane. Donc c'est un peu différent. Mais c'est tout à fait ce thème-là, quoi.
Mais on a envie de le lire, d'ailleurs.
Ah, ben lisez-le, alors. Le lézard lubrique de Mélancolikov, paru en série noire, puis reparu en folio, c'est ça, absolument.
Mélancolikov, ça, c'est un nom d'auteur.
Ah oui, c'est magnifique. C'est un pseudo, non ?
Non, l'auteur, j'ai perdu.
Patrick Bénier, je sens que vous avez des idées.
Ah, j'ai beaucoup d'idées. On m'a violemment arraché la parole tout à l'heure. Oui. La discussion devient aussi violente que le
combat.
Oui. Pour rester à la fin du texte, ce qui me frappe, c'est le « ils nous séparèrent ».
Oui.
Et le côté indiscernable de ces spectateurs qui sont aussi... Où il y a aussi des...
Ils sont au début.
Ils sont au début.
Oui, je sais qu'ils sont au début. Ils restent dans un flou complet. Et là, ce ne sont pas forcément les spectateurs. Ça peut être aussi des animateurs du combat, etc.
Oui.
Mais en fait, on oscille entre deux histoires. On oscille entre Jack London et le combat du loup et du chien. Et puis... une scène de la guerre des étoiles avec des personnages fabriqués avec du plastique et des morceaux de dinosaures qui se bagarrent entre eux. Donc on est entre ces deux univers.
Et moi je suis aux États-Unis avec mes catcheurs. Je ne suis pas dans vos deux univers, je suis dans un troisième.
Oui, on a des chiens qui disent avec Jean-Bernard.
Oui, mais il n'y a que le dinosaure qui peut servir de sa queue pour se rétablir.
Pas le catcheur.
Hein. Pas le catcheur. Le chien aussi rarement. Hein.
Ah, bah, le catcheur a des accessoires.
Oui,
mais... Bon, c'est un texte qui fait parler, en tout cas. Moi, je le réécouterais volontiers, Jacques Jouet.
Il regarda autour de lui. Les autres firent le cercle. Il ne restait plus qu'à se battre. J'avançais, j'esquivais un coup de dent à la gorge. Déjà, je lui avais donné un coup de patte qui le renversa le ventre en l'air, et je fus sur lui. C'était une mauvaise manœuvre, comme si je ne l'avais pas su. Comme si je n'en avais pas vu mourir des dinosaures à force de griffures et de morsures sur la poitrine et le ventre, alors qu'ils pensaient avoir immobilisé l'ennemi. Mais je savais encore me servir de ma queue pour me tenir ferme. Je ne voulais pas me laisser renverser à mon tour. Je peinais, je sentais que j'allais céder. Ce fut alors qu'un des spectateurs cria « Vas-y, dinosaure !» Apprendre qu'il m'avait démasqué et retourner l'autre d'un coup, ce fut tout un. Perdu pour perdu, autant leur faire retrouver leur peur ancienne. Et je frappais Zan. Une fois, deux, trois, ils nous séparèrent. Zan, on te l'avait dit, la brute a des muscles. Il ne faut pas plaisanter avec la brute.
Il est bien, il ne faut pas plaisanter avec Jacques Jouet, parce que si on, si on le pousse, il sort.
Est-ce que, Patrick Bénie, vous pensez que c'est un recueil dans lequel il y a, comme ça, énormément de combats ou c'est dans un roman?
Écoutez, moi, j'imaginerais volontiers...
Oui.
Si vous me poussiez à bout.
Je vous pousse.
Que ce soit dans un roman, une sorte d'intermède. Le héros du roman lit tout à coup un texte et donc ça nous conduit à une version un peu parodique de tout ce dont on a parlé plus haut. J'ai du mal à penser qu'une œuvre tout entière tienne dans ce ton, dans ce style et avec cet acharnement.
Et ça serait écrit à quelle époque ?
Autant des dinosaures.
Moi, je pencherais pour l'immédiate après-guerre, les années 40-50.
Ouais.
En même temps, puisque JB a évoqué le lézard lubrique...
Oui, de Mélancolico.
Moi, ça me fait songer à une œuvre qui est le chant de Claire d'Edmond Rostand.
Ah bon ?
Histoire
ah
de
oui.
coq. Hein, c'est
ah
un
oui,
coq
oui,
lubrique,
oui,
un peu oui, surexcité. Oui. Bon, c'est évidemment pas ça, mais ça pourrait être une sorte de réécriture démente de la pièce de Rostand.
Très bien, très bonne idée. Est-ce que vous progressez, Jean-Bernard Pouilly ?
C'est un texte du XXe siècle, alors avant ou après-guerre, je ne sais pas, mais moi je dirais plutôt du début du XXe.
Mmh.
Et je pense que c'est quand même une traduction, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. Je pense que c'est une traduction parce que tout ce texte qui est forcément dans un roman beaucoup plus long, c'est une scène qui est dans un périple. Et qui dit périple dit peut-être neige, dit peut-être grand nord. Voire il y a des gens qui se regroupent, qui boivent, qui font des paris. Enfin, il y a je tiens au chien, il y a la présence du chien permanente qui est là.
Oui, c'est...
Au moins, sur les traîneaux, pour
c'est
chien,
sûr mais... qu'on n'imagine pas une présence féminine dans la salle.
Non, dinosaure, c'est pas très, très féminin.
Non, mais parmi les spectateurs, Eva, vous êtes d'accord?
Oui, c'est ambiance trappeur.
Exactement.
Mauvais.
Un peu sauvage, quoi.
Il y a ce côté-là, et c'est pour ça que je pense que c'est plutôt début de siècle.
Oui.
Mais la question des spectateurs dont vous parlez, qui sont les spectateurs ?
Mais je ne sais pas.
Et justement, quand on lit le texte, ça commence par « Il regarda autour de lui, les autres firent le cercle », donc les autres, ils sont comme lui, de la même espèce. Et après, on nous explique qu'il esquive un coup de dent à la gorge, etc. Donc, apparemment, les spectateurs, ce sont les animaux ou les
non,
bêtes.
Qui parlent à la fin.
Sont les chiens.
Eh ben, ils peuvent parler Bernard. Parce que dans un roman, ça arrive que les animaux parlent.
Ouais, ben,
c'est peut-être une prétérition. Mais
c'est n'importe quoi.
Mais non, dans Chanteclair, les animaux parlent très bien.
Et en vers même.
Voilà, il est arrivé dans La Fontaine qu'il fit parler des animaux, donc
je ne reçois
pas votre argument là, pas du tout.
Ouais, non, mais dinosaure, la brute, c'est tout à fait. C'est des surnoms un peu bêtasses, premier degré, quoi. Donc oui. C'est un peu dans un monde un peu bêtasse et les autres. Ils nous séparaient. On a l'impression que c'est
pas l'ange blanc, quoi, le catcheur.
Non, pas le catcheur.
Ou Chéri Bibi. Oui.
Je pense plutôt à des grosses brutes pleines de glace et de vin. Et non, de whisky.
On voit genre... depuis le début où il veut nous emmener. Donc...
Mais on va y arriver. On voilà. va y aller tout doux.
Voilà. Il va nous proposer des esquimaux, là. C'est l'entracte.
Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il est très intéressant, ce texte.
Le tour de très loin. Hein. Pas mais le alors, petit cercle.
Oui. Mais alors, qui a une idée de nom ? Patrick, tout de suite, oui.
Oui, tout de suite. Hein. Ouais. Non, si j'avais un nom à prononcer, ce serait celui de Rosny. Mais est-ce que c'est un auteur assez célèbre pour figurer...
Rostand ?
Non, l'auteur de La Guerre du Feu.
Ah oui,
il a fait le profil.
Rosny. On dit Rosny Sous-Bois.
Oui, d'accord, Rosny. Je cherchais plutôt à être compris. Rosny, oui, donc auteur. Il est célèbre au moins pour La Guerre du Feu. Enfin,
oui,
c'est ce genre, début du siècle, vaguement science-fiction, enfin, littérature un peu parallèle par rapport au grand genre littéraire.
Bon, voilà un nom lâché, Valmassi.
Rosny Aîné. Rosny tout seul, ça ne marche pas. C'est Rosny Aîné, pour préciser.
Et son prénom, il n'y en a pas ?
J.H., c'est toujours, ce sont toujours des initiales.
J.H. Rosny Aîné.
Ils sont deux, et donc je sais pas, ils ont cherché à se... À se distinguer l'un de l'autre, c'est un peu compliqué.
Eva,
c'est vraiment pour dire un nom. William Golding, Seigneur des mouches, c'est pas les dinosaures. Ou alors, pas Golding, mais Rowling, c'est-à-dire l'auteur anglaise, de Harry Potter. Puisque je suis que perplexe. Je suis pas chien savant, là.
Oui, mais quand vous aurez les trois noms, tout va s'éclairer. Lucas Fournier.
J'ai fait comme Eva, j'ai écrit une liste de noms qui s'allonge au fur et à mesure de la discussion. Oui. Donc j'en suis à 8. Alors je vais vous proposer le dernier nom de ma liste, qui est Roald Dahl.
Mais ça nous plaît.
C'est pas bête, c'est ça. Pas bête. Roald Dahl. Ah oui.
Ouais,
très
c'est
bonne
trop
idée.
Compliqué pour les enfants.
Je l'aime beaucoup.
Il n'a pas écrit que pour les enfants. Il a écrit des choses peu perverses parfois.
Oui, oui.
Enfin, les enfants sont pervers.
Non, c'est une bonne idée. Jean-Bernard Pouy.
Oui, je pense aussi à ça. Je pense à Jack London.
Ah oui, évidemment. L'ambiance, trappeur, le froid.
Ou Curwood, ou James Oliver Curwood, mais Jack London est plus connu.
D'accord. Bon, Jacques Jouet, vous avez assisté à la discussion, je vous ai vu sourire sous cap.
Bon, non, c'était...
Vous les avez trouvés brillants, intéressants, drôles ?
Oui, drôles surtout.
Alors,
ils ont un peu pédalé dans le permafrost, mais bon.
Alors, je rappelle leur choix. Patrick Beignet opte pour J.H. Rosny, auteur de La Guerre du Feu. Lucas Fournier pour Roald Dahl. Jean-Bernard Pouy pour Jack London, Eva Almassi pour William Golding ou J.K. Rowling.
Oui.
Il y a du monde.
C'est pas, est-ce qu'il y a c'est le bon... pas ridicule, vraiment.
Non.
Oui. C'est gentil de dire ça et de penser
avec
autre
un grand
chose.
Sourire.
Oui. Non, c'est pas ridicule. Non.
Alors, vous avez trois noms. Est-ce qu'il y a un nom en commun ?
Oui. Un des trois noms qui a été prononcé, oui.
Ah.
Donc, voilà les trois noms. Jack London.
Ah ben voilà.
Ouais. Italo Calvino, Elsa Triolet.
Elsa Triolet. On se demande ce qu'elle vient faire là, mais pourquoi pas.
Elsa Triolet.
Alors, pourquoi est-elle là ? Est-ce elle ?
C'est quand elle était enfermée dans la Colima ou en Sibérie. Elle regardait des combats d'hommes pour se...
Alors, Jack London, Italo Calvino, Elsa Triolet.
Jack London, parce que je l'ai dit, alors je le redis.
Oui, soyez cohérent avec vous-même, donc... un Jack London pour Jean-Bernard Puy. Patrick Beignet.
Mais ça ne correspond pas du tout à l'image que j'ai de Jack London, non. Qui est une image très partielle d'ailleurs. Et je dirais Calvino.
Avec un petit argument pour.
Bah, chez Calvino, tout est possible. Et dire, c'est le principe de son écriture, tout à fait. Donc, je ne dis pas ça en l'air.
C'est vrai. Et Val Massy, alors.
Moi, je vais dire Jack London en hommage à mon enfance, à moi, où je l'ai énormément lu, mais c'est trop loin.
Quand tu étais
en plus, c'est un hongrois.
Et vous ne vous souvenez pas
de ça, non.
De ça, pas du
non,
tout.
Non,
hein.
Du tout.
Bon. Et pour Lucas Fournier.
On se souvient de ça dans Jack London, on l'a lu 100 000 fois, sauf que ce n'est pas tout à fait le même genre d'animaux qui se battent.
Ce serait le piège.
Ça serait un piège, donc on va l'écarter. Après Elsa Triolet, il faut avoir lu Elsa Triolet, et ne l'ayant pas lu, je l'avoue, là, donc je ne voterai pas pour elle, et donc je voterai pour Italo Calvino.
Avec un petit argument pour. Même raison que Patrick Béni.
Avec un peu de résignation, plutôt.
Bon, Jacques Jouet, on vous propose deux Italo Calvino. Ce sont les choix de Patrick Béni et de Lucas Fournier. De Jack London, pour Eva Almassy et pour Jean-Bernard Puy. Et zéro Elsa Triolet.
Donc, c'est Elsa Triolet, de toute évidence.
Qu'est-ce qu'elle vient faire dans la liste, Elsa?
Ben non, ce n'est pas Elsa Triolet.
Mais pourquoi vous l'avez mis
on l'a échappé belle.
Ça n'a rien à voir avec Elsa Triolet.
C'est qui?
C'est Calvino.
Pour la raison qu'a...
Bon, Jack London, il y a des, il y a des nouvelles de préhistoire dans Jack London. Hein, ça ne serait pas du tout invraisemblable. C'est pour ça que je l'ai mis. Non, Calvino, c'est dans Cosmic Comics. Donc le livre le plus SF de Calvino, hein, puisque c'est le personnage qui se nomme QFWFQ, c'est difficile à prononcer, et qui se souvient, alors c'est une suite de nouvelles, et ce personnage a vécu toute l'histoire humaine depuis les origines, donc il raconte quand j'étais ceci, quand j'étais cela, et là il est effectivement un dinosaure à ce moment-là.
C'est pas un chien, Jean-Bernard.
Mais c'est pas non plus un humain.
Et il a une petite copine qui est pas tout à fait une dinosauresse, qui est presque. Et Zan est le frère de cette petite copine, qui lui doit être une sorte de brontosaure, ou je sais pas quoi. Et qui essaie d'interdire au personnage de sortir avec cette fille. Et donc il y a le combat à ce moment-là. Et il,
c'est pour une fille.
Et QFWFQ dinosaure. Bah, le pauvre Zan, qui est le frère de sa copine.
Il a vraiment pillé.
Le frère abusif.
Ronnie.
Oui. Et Jack London également.
Mais pourquoi avoir mis Elsa Triolet? Juste pour vous moquer de nous?
C'est un piège à louer.
Oui.
Pour nous faire rire.
Non, mais j'attendais la question traditionnelle sur l'écriture féminine.
Non, elle n'a pas eu lieu.
Le combat de dinosaures dans l'écriture féminine, c'est quand même un sujet de thèse intéressant.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Emmanuel Couturier à télécharger sur franceculture.fr. C'est le podcast et c'est gratuit, profitez-en. On se retrouve dimanche à 12h50 pour d'autres papous dans la tête. Au revoir, passez un bel après-midi sur France Culture, vous ne vous sentirez plus jamais seul.